Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Quand le pape François rencontre des enfants et qu'il les invite à bâtir avec lui un monde meilleur, cela donne lieu à un dialogue festif et ludique. Cela s'est passé ce samedi au Vatican. Dimanche, le Saint-Père se rendra pour la première fois au stade olympique de Rome, pas pour un match de foot dont il est pourtant fan. Il s'adressera aux membres du renouveau charismatique, un événement sans précédent dans l'histoire presque cinquantenaire de ce mouvement. Dans ce magazine, nous parlerons encore de la Centrafrique et de l'Irak. Et en fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Un train avec à bord 500 enfants en difficulté scolaire est arrivé en gare du Vatican ce samedi. Les enfants venus de Naples ou de la périphérie de Rome ont rencontré le pape François après avoir visité la basilique Saint-Pierre. Cette opération baptisée le train des enfants, chercheurs de lumière, est une démarche du Parvis des Gentils, une initiative du Conseil pontifical pour la culture en collaboration avec les chemins de fer italiens. Elle vise à faire découvrir la beauté et la culture à des enfants qui en sont privés afin que l'art et la connaissance soient des stimulants pour leur avenir. Les enfants ont offert au souverain pontife une chanson, mais pas seulement. Antonino Gallofaro.
Les enfants ont ramené au pape de la terre des catacombes de Naples, un lieu où il n'y a pas de lumière, précise François. Le souverain pontife leur a expliqué dans un échange de quelques minutes que l'ombre des catacombes doit se transformer en lumière, une lumière qu'il faut chercher en nous. Il a livré aux enfants un message d'espoir, l'espoir et la joie que l'on trouve dans la lumière et non dans l'ombre. Le but est de faire ainsi un monde meilleur, et cela avec l'amour. Et c'est vers la lumière, justement, que l'on trouve l'amour de Dieu, a conclu le pape.
Ma bene, dillo forte. Con l'amore. Con l'amore, tutti insieme.
Le Parvis des Gentils, version enfant, il s'agit du deuxième train à entrer en gare vaticane avec des très jeunes, 9-10 ans, après une opération en juin de l'année dernière. Cette année, des écoles loin du centre ont été choisies, comme l'explique la responsable du Parvis des Enfants, Patricia Martinez. Des écoles loin des lieux de beauté et de culture, autrement dit, aux périphéries des lieux chers au pape François. L'idée de l'opération est donc de donner la possibilité aux enfants de se connaître entre eux, d'échanger leurs impressions sur les lieux artistiques et sacrés qu'ils ont visités. C'est du moins ce qu'espèrent les organisateurs de l'événement. Ils veulent faire parvenir dans la vie de ces jeunes l'art, la culture, la connaissance, pour les stimuler pour leur futur.
Et ce dimanche, plus de 50 000 membres du renouveau charismatique venus de 52 pays se retrouveront à Rome en présence du pape. La 37e convocation du mouvement catholique se tiendra au stade olympique. Accueil, prière, chant, témoignage, dialogue, écoute, les participants passeront environ 90 minutes avec le Saint-Père, point d'orgue d'un rassemblement qui commencera dimanche matin et se poursuivra jusqu'à lundi soir. Un millier de prêtres, 150 séminaristes, 350 religieuses, 3000 enfants et adolescents seront présents et parmi les personnalités, le père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, ambassadeur du renouveau dans le monde. Les organisateurs annoncent une explosion de joie et de fraternité évangélique. Dans la perspective de la Pentecôte, ils entendent faire du stade de Rome un cénacle à ciel ouvert. Xavier Sartre.
Pour le renouveau charismatique, cette 37e convocation dans le temple du football romain ne sera pas l'occasion de se mettre en scène, mais bien de franchir un cap. En effet, pour la première fois de son histoire, ce mouvement accueillera un pape, et en l'occurrence un pape qui le connaît bien. Car François, quand il était archevêque de Buenos Aires, en était l'évêque référendaire au sein de l'épiscopat argentin. Pendant de nombreuses années, il a donc participé à ces rencontres, comme le rappelle Salvatore Martinez, le président du renouveau charismatique en Italie.
Pendant beaucoup d'années, le cardinal Bergoglio a participé activement à nos rencontres. Il viendra au stade avec cette expérience forte. Nous sommes très contents de la grâce que nous avons eue en Argentine de l'avoir à nos côtés. Et maintenant qu'il est pape de l'Église catholique, c'est le pape de tous et pas d'un seul mouvement ou de quelqu'un.
Le renouveau charismatique entend s'inscrire pleinement dans la ligne évangélisatrice du pape et participer aux efforts qu'il mène.
Cette église qui attend l'Esprit Saint, c'est une église qui ne dort pas, c'est une église réveillée, présente dans l'histoire, qui veut s'inscrire dans l'histoire. Le pontificat du pape François souligne bien tout cela. Nous voudrions que cette convocation devienne une valeur ajoutée pour l'église actuelle.
chiesa in questo nostro momento.
Cette rencontre avec le pape sera ainsi le point d'orgue de deux jours de prière, de chants, de dialogue et d'écoute. Deux jours pour dire quelle est vers les périphéries existentielles et possibles.
Une mystique espagnole morte en 1983 a été béatifiée ce samedi près de Pérouse en Italie. Apôtre de l'amour miséricordieux de Jésus, fondatrice de deux congrégations, Mère Maria Esperanza de Jésus s'est forcée d'aider les hommes à connaître Dieu comme un père bon, qui prend tous les moyens possibles pour réconforter ses enfants et les rendre heureux, qui les suit et les cherche d'un amour inlassable, comme s'ils ne pouvaient être heureux sans eux. En 1981, Jean-Paul II lui avait rendu visite au sanctuaire de Colle Valenza, où elle vivait. Des représentants d'organismes caritatifs catholiques au chevet de la Syrie, je vous en parlais hier dans ce magazine, ils se sont retrouvés vendredi au Vatican sous les auspices du Conseil pontifical Corunum. À cette occasion, le pape François a mis en garde contre le risque de s'habituer à la crise syrienne qui perdure et qui pourrait être balayée par l'oubli. Parmi les participants à cette rencontre de coordination, Mgr Shlemon Varduni, évêque auxiliaire du patriarcat des Chaldéens de Bagdad. Même si les médias en parlent peu, les violences continuent également en Irak, qui a connu mercredi dernier une journée particulièrement sanglante. Un bain de sang qui a fait 74 morts alors que les responsables politiques cherchent depuis plusieurs semaines à constituer des alliances en vue de la formation d'un gouvernement. Le Premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, entend continuer à diriger le pays même si les élections législatives du 30 avril ne lui ont pas donné de majorité claire. Les attaques, qui tuent en moyenne plus de 25 personnes par jour, sont généralement commises par des insurgés sunnites. Mgr Warduni nous parle des difficultés que connaît l'Irak.
La situation en Irak, vous savez bien, ne va pas très bien. Nous avons fait les élections, mais le gouvernement, c'est difficile à former. Nous attendons toujours le nouveau gouvernement, en espérance que les choses vont beaucoup mieux. Et nous prions, vous priez avec nous pour la paix, pour la sécurité de notre nation.
Et concernant l'impact de la crise syrienne ?
Il y a l'influence négative parce qu'il y a beaucoup d'émigrés et quelquefois viennent de là les terroristes. Et nous avons eu beaucoup des Irakiens là-bas qui ont dû laisser la nation syrienne à cause de la guerre.
Mgr Warduni, évêque auxiliaire chaldéen de Bagdad, interrogé par Audrey Radondi. Le pape François a nommé un coadjuteur pour le diocèse centrafricain de Kagabandoro. Il s'agit d'un franciscain polonais de 63 ans qui vit en Centrafrique depuis 25 ans. Le père Tadeusz Kuzi, actuellement maître des postulants, est chargé de la formation à Bangui. Kagabandoro est situé à 350 km de la capitale, un carrefour incontournable pour les différents acteurs du conflit en cours sur la route vers le Tchad. Jean-Baptiste Cocagne.
Ce jeune diocèse est dirigé depuis près de 10 ans par un salésien belge, Mgr Albert Van Bulle, qui avait récemment annoncé son intention de démissionner l'année prochaine pour atteinte de la limite d'âge. Au cours des derniers mois, il a tenté tant bien que mal de jouer les médiateurs en l'absence de toute autorité publique, aussi bien auprès de la Séléka que des anti-Balaka. Mgr Van Bulle déplore la confessionnalisation du conflit. Il a essayé de dialoguer avec les imams, mais eux aussi sont partis. Missionnaire en Centrafrique depuis 1994, il est le cofondateur de deux maisons salésiennes dans son pays d'adoption, qu'il décrit comme une des nations les plus pauvres de la Terre, alors qu'elle ne manque pas de richesses, minerais, diamants, bois, des richesses qui pourraient la rendre prospère, a-t-il expliqué lors de son passage à Rome au mois de mars, mais qui au contraire sont à l'origine de guerres et de violences avec un dessein d'expansion islamique. 80% des rebelles viennent des pays voisins, selon Mgr Van Bulle. Dans son diocèse, la pauvreté est extrême, les jeunes désœuvrés sont facilement portés à la violence. Les distances, l'insécurité sociale ou encore le manque de moyens de transport rendent les mouvements difficiles. Aucune paroisse ne possède de véhicule, il n'y en a qu'un seul à disposition de l'évêque. Mgr Van Bulle voudrait que l'église locale s'émancipe et devienne africaine, mais un long travail de formation reste encore à faire.
Aux États-Unis, des évêques catholiques se sont rendus au Congrès pour plaider en faveur d'une réforme de la loi sur l'immigration qui tarde à être adoptée. Le 1er avril, ce même groupe d'évêques s'était rendu à la frontière entre l'Arizona et le Mexique pour prier pour les quelques 6000 candidats à l'immigration qui ont perdu la vie ces 15 dernières années en essayant de se rendre aux États-Unis. Jeudi, les évêques ont célébré célébrer la messe dans une église proche du Capitole à Washington, en présence d'un certain nombre de politiques, puis ils ont été reçus au Congrès, où ils ont rencontré des législateurs et le président de la Chambre des représentants. Mgr Elizondo, évêque auxiliaire de Seattle, a expliqué que l'épiscopat n'entendait pas se mêler de politique, mais qu'il voulait accomplir un geste d'humanité et sensibiliser les consciences. De nombreuses familles sont séparées à cause de la loi actuelle, une loi insoutenable selon l'archevêque de Miami, et les évêques n'ont pas l'intention de baisser les bras. Si la réforme de l'immigration approuvée par le Sénat était confirmée par la Chambre des représentants, 11 millions de clandestins, en majorité mexicains, pourraient être régularisés. Ce texte fait l'unanimité chez les démocrates, tandis que les républicains sont écartelés entre leur désir de conquérir l'électorat hispanique et leur crainte de perdre leur base conservatrice. La réforme prévoit également le déploiement sans précédent de 20 000 agents supplémentaires le long des 3200 km de frontière avec le Mexique, où les passages sont souvent mortels. La Conférence religieuse canadienne, qui fête son 60e anniversaire, tient son assemblée générale en cette fin de semaine à Montréal, en présence de 280 représentants de congrégations. Un album souvenir, hier, aujourd'hui et demain, a été présenté vendredi soir. L'album relate à grands traits l'histoire de la conférence, de sa fondation à aujourd'hui. Une histoire de solidarité et d'entraide, d'engagement en Église et dans la société. Mais la conférence a le regard tourné vers l'avenir. Pour preuve, elle a choisi pour thème de cette assemblée générale, au-delà des frontières, un appel à la transformation. C'est une invitation à faire du neuf dans l'Église et dans la société et à entreprendre une démarche de transformation intérieure pour relever les défis qui se présentent face aux nouvelles réalités. Avant-dernier volet de ce magazine Science et philosophie, Panorama 1945-2012 de Michel Lefeuvre, c'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. Je vous laisse en compagnie de Sœur Catherine Aubin.
Cette semaine, un livre qui nous propose des repères pour des questions difficiles sur l'origine de la matière, l'évolution de l'homme, sur la vie et sur la pensée, avec un philosophe, Michel Lefeuvre, qui vient d'écrire son dernier livre qui s'appelle « Science et philosophie, Panorama 1945-2012 ». Nous l'avons interrogé et nous lui avons demandé quelles étaient les motivations de ce livre.
Très jeune, je me suis posé la question de l'existence de Dieu. Je devais avoir 12-13 ans à ce moment-là, vous voyez, c'est très très ancien. Et c'est cette interrogation qui m'a d'abord orienté vers des études religieuses, puis ensuite progressivement vers la philosophie, les sciences, et plus spécialement vers la biologie et la neurobiologie.
Pouvez-vous nous dire quel est l'axe de votre livre ?
C'est la finalité. Est-ce que tout ce qui s'est passé dans la nature... On sait que ça a évolué. Est-ce que c'est le hasard, comme on le prétend encore couramment, ou au contraire, est-ce qu'il y a une ligne directrice, une finalité ?
Et du coup, vous avez divisé votre travail en 3 sections et une première section qui traite de l'origine du cosmos, où vous parlez de la naissance de l'idée du Big Bang en 1963, où finalement vous dites « le monde a eu un commencement ». Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est-à-dire jusqu'à cette époque, eh bien, j'étais tributaire de la lecture de Kant. Et Kant, à propos de la naissance du monde, dit ceci. « Où le monde a un commencement dans le temps et il est limité dans l'espace, c'est sa thèse, ou, au contraire, l'antithèse, il n'a ni commencement ni dans le temps et il n'est pas limité dans l'espace. » Mais c'est seulement alors en 1963 qu'un véritable coup d'État intervient. Deux ingénieurs qui font des relevés sur le mont Palomar découvrent un bruitage dans leur appareil qui vient de tous les côtés à la fois et dont il est impossible de se débarrasser. Et c'est à partir de ce bruitage, à partir de là, que va naître l'idée du Big Bang. Le monde a eu un commencement. Et c'est à partir de là que je me pose la question suivante. Le monde a-t-il pu se créer lui-même, comme par une sorte de génération spontanée ? Cette question est aussi vieille que la philosophie. Elle est connue sous le nom d'argument ontologique par les spécialistes. Alors, à cet argument ontologique, dénué en réalité de toute valeur, je pose ce que l'on entend par principe anthropique. Tout a été calculé pour lui dans l'univers, au millimètre près, pourrait-on dire, pour qu'un jour puisse apparaître l'homme.
Et vous continuez justement votre livre avec cette deuxième section sur l'origine de la vie. Et une question particulière, est-ce qu'on a encore aujourd'hui la prétention d'expliquer la vie ?
Non. on n'a pas cette prétention, mais malgré tout, ce qu'on peut dire sur l'origine de la vie, on est incapable de la créer en laboratoire. J'insiste sur ce fait parce que souvent, dans des réclames, on laisse penser le contraire. La génétique ne nous dit rien sur la manière dont on peut se faire les assemblages pour que puisse apparaître une première cellule vivante, si simple soit-elle en tant que cellule.
Tout cela a-t-il un sens et une finalité ?
Oui, exactement, ça a un sens et une finalité. Une finalité qui remonte vers l'homme. Une finalité dont l'objectif est de l'homme fait à l'image de Dieu. Alors, j'attache une importance considérable à ce qu'on appelle les transcendentaux, le vrai, le bien et le beau. Il y a une brisure, si vous voulez, une coupure avec l'animalité. La recherche du vrai, eh bien, il n'y a que l'homme quoi, qui cherche le vrai en tant que tel. L'homme est capable de risquer sa vie matérielle, biologique, pour un idéal plus élevé que la biologie. Et c'est par là que l'homme ressemble à Dieu.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Aubin. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile du 1er juin, 7e dimanche de Pâques. C'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 17, versets 1b à 11a. Jésus passe de ce monde à son père.
En ce 7e dimanche de Pâques, nous continuons notre méditation de l'évangile selon saint Jean. Souvent, dans les évangiles, il nous est dit que Jésus se retirait pour prier. Mais le contenu de cette prière nous est généralement caché. L'évangile de ce jour nous le dévoile. Tout d'abord, Jésus commence en disant « Père ». Cette appellation revient régulièrement tout au long de la prière. En cela, Jésus nous montre comment nous adresser à Dieu. Dieu est Père. Et nous qui sommes le corps du Christ, de par le baptême, nous pouvons en Jésus dire « Père » à Dieu. En disant « Père », nous reconnaissons que la providence divine ne nous quitte jamais, même au plus fort de l'épreuve, même lorsque, comme Israël, au désert, nous nous rebellons, car il nous semble que Dieu nous a abandonnés. Lorsque je prie le « Notre Père », je pose un acte de confiance en Dieu. Ensuite, Jésus montre à son Père qu'il a accompli la mission qui lui a été donnée. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus est défini comme celui qui est envoyé. Dans notre prière, nous pouvons nous aussi confier notre mission à Dieu. Chacun de nous, nous sommes appelés à accomplir une tâche pour le royaume des cieux. Ce travail nous est parfois difficile. Nous pouvons nous sentir incapables de poursuivre ce chemin. Seule la prière nous permet de retrouver des forces et de continuer à servir le Seigneur. Jésus continue ensuite en priant pour les hommes que le Père lui a donnés. « Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. » Cette prière peut surprendre. Il faut bien la comprendre. Bien sûr, Jésus annonce son message de salut à tous les hommes. Mais tous ne l'acceptent pas. Tout au long de l'Évangile, saint Jean nous montre Jésus rencontrant des personnages différents. Nicodème, le pharisien, la femme samaritaine, un fonctionnaire royal ou encore l'aveugle-né. À chacun est posée la même question. Choisis-tu Jésus comme le Messie d'Israël, le Fils de l'homme venu pour la rédemption ? L'Évangile d'aujourd'hui nous invite de nouveau à répondre à cette question. Est-ce que je choisis Jésus comme Sauveur aujourd'hui, comme mon Sauveur ? Ce choix, nous sommes appelés à le refaire régulièrement. Il n'est jamais fait une fois pour toutes. Les événements de la vie, les épreuves et la paresse aussi nous conduisent parfois à nous éloigner du Christ, à laisser tomber la prière ou la participation à la messe du dimanche. En ce jour, nous pouvons reposer notre choix. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le Christ nous a choisis pour être porteurs de lumière. Acceptons-nous cette invitation. «
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que ce dimanche 1er juin, on célèbre la Journée mondiale de la communication dans l'Église. Les chrétiens sont invités à soutenir les différents médias catholiques, journaux, radios, télévisions. Alors n'oubliez pas Radio Vatican dans vos prières et n'hésitez pas à faire connaître à vos amis, parents, paroissiens, nos émissions et notre présence sur la toile si vous les appréciez. Beaucoup de catholiques francophones ignorent que Radio Vatican existe. Alors retrouvez-nous également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican. En français, bon dimanche à tous.